J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une rencontre, une rencontre entre un homme et un cheval. On l'avait bien prévenu, cet homme, ce n'est pas un cheval facile, il est plutôt du genre nerveux. Je peux même vous dire qu'une personne l'a acheté récemment et nous l'a rapporté immédiatement. Ingérable, la bestiole. Et pourtant, quand cet homme s'est approché du cheval qu'il n'avait jamais vu, le cheval a semblé le reconnaître. Il a semblé traversé par un fluide d'apaisement. L'homme a approché sa main, le cheval a levé son museau. Tout doux, lui aussi, l'homme, il est plutôt du genre nerveux. Et en lui aussi, soudainement, quelque chose s'est apaisé, c'est comme fluidifié. Voilà, ça s'est passé comme ça. Simplement, comme une évidence, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Lui, l'homme, il n'est jamais autant lui-même qu'en présence du cheval. Et lui, le cheval, il aime cet homme qui sait l'apaiser, mais aussi le diriger, l'inviter. L'inviter à danser, car c'est bien sûr de ça qu'on parle. Alors cet homme appelé dans d'autres mondes, cet homme que vous connaissez dans d'autres univers, il a pris acte de ce qui avait eu lieu, il a tiré les conséquences de cette rencontre et il en a fait son métier. Il est devenu moniteur d'équitation éthologique. Et en apprenant aux hommes à parler aux chevaux, à murmurer à leur oreille, en apprenant aux hommes à se comporter avec les chevaux, il a appris beaucoup des hommes eux-mêmes. Il y a ceux qui ne savent pas inviter, ils ne savent que contraindre. Ils tirent sur la corde, ils tirent sur le licol, au lieu de demander simplement « Tu viens ?» Il y a ceux qui ne sont pas capables de ce minimum de fermeté, d'autorité, dont le cheval a besoin pour se sentir guidé. Certains ne savent pas écouter, d'autres ne savent pas s'imposer, mais tous, ils sont démasqués par le cheval. Mais pourquoi le cheval lit-il en eux comme dans un livre ouvert ? À quoi le cheval est-il si attentif que nous ne savons plus voir ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir ce moniteur d'équitation éthologique qui passe une bonne partie de sa vie à apprendre aux hommes comment rencontrer les chevaux. Ce moniteur d'équitation éthologique, vous le connaissez car il est aussi acteur et comédien. Vous l'avez vu dans Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, Le Dîner de con, Quai d'Orsay, Le Prince du Pacifique et une centaine d'autres films. Au théâtre, vous l'avez vu notamment dans le magnifique Fleur de Soleil. Oui, Thierry Lhermitte est avec nous ce matin. Et oui, c'est bien lui, ce moniteur d'équitation éthologique. Et en sa compagnie, nous allons nous demander ce que les chevaux nous apprennent de notre humanité.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Charles Pépin.
Alors, j'imagine la tête des gens qui s'inscrivent à un stage d'équitation éthologique, on va le définir après, oui. Un stage d'une journée, de deux jours, au fin fond d'une campagne française, et qui découvrent que leur moniteur, c'est vous, Thierry Lhermitte.
Oui, ils oublient assez rapidement, parce que moi j'entre directement dans le vif du sujet, je tutoie les gens, puis on a un sujet en commun qui est qu'est-ce qu'on va faire avec le cheval. Et donc, ils me disent après, voilà, au début on fait ça, c'est bizarre, et puis en cinq minutes on parle de la même chose.
C'est beau, hein, c'est beau d'ailleurs que ça s'est fait. Cette notoriété s'efface au profit de ce qui se passe, quoi.
Oh oui, il suffit de regarder ailleurs, c'est pas difficile.
Ouais. Ouais. Et peut-être de regarder le cheval.
Oui.
Alors Thierry Lhermitte, racontez-nous votre rencontre avec votre cheval Wallace.
Eh bien voilà, j'avais commencé déjà à me passionner pour l'équitation éthologique, par cette manière de faire aux chevaux volontiers ce que nous on voudrait. Ouais. Et je suis invité aux États-Unis dans un ranch, Lassance, qui est l'endroit où j'ai fait ma formation. Et on me dit, tu vas monter Wallace, et il faut être plusieurs pour l'attraper dans le troupeau. Donc j'y vais, on est avec deux cow-boys. Voilà. Parce qu'il s'enfuyait tout le temps, il n'aimait pas être auprès des hommes, donc on va le chercher. Moi je le monte, je trouve pas, il était extrêmement bien dressé, mais je ne trouve pas qu'il y ait de difficultés particulières. Puis je sens qu'il est très calme, et je suis même scié qu'il me suive à pied ou monté, aux endroits sans aucune difficulté. Et le lendemain, je décide d'aller le chercher tout seul dans le troupeau, parce que je sentais que ça accrochait. Et là, il ne s'enfuit pas, il me regarde, il m'attend. Et puis, il vient avec moi. Et puis, les gens disent, tu l'as attrapé tout seul ? Oui. Et je suis scié. Mais ça, c'est une chose qui arrive tout le temps dans les refuges SPA.
Ouais.
Voilà. Il y a des chiens qui disent, ils voient les gens passer, et ils disent, celui-là, c'est bon. Et pourquoi, comment, personne n'en sait rien. Et puis, les gens, ils sont, en général, ont le même sentiment, ou en tout cas sont influencés par la réaction du chien, et disent « mais il a l'air de m'aimer celui-là, il a l'air de m'apprécier, mais c'est dingue !» Et ça colle.
Et surtout, ça a collé longtemps, parce que ça a été votre cheval pendant des années.
J'ai eu 7 ans jusqu'à ce qu'il ait, malheureusement, qu'il meure. Et je dis « mais qu'est-ce qu'ils voient en nous qui disent « cette personne-là, oui ?» Si je, franchement, j'en sais rien, j'ai pas de réponse à ça.
Ouais, alors du coup, ça veut dire quoi, équitation éthologique ?
Alors, l'éthologie, c'est une science qui s'étudie à l'université, c'est l'étude du comportement des êtres vivants dans leur milieu naturel. Ouais. Alors, Konrad Lorenz, c'est un des éthologues les plus connus, ouais. Il a montré l'imprégnation des oies, en l'occurrence, qui voient première chose, la personne qui voit en premier, devient leur maman, entre guillemets, voilà. Boris Cyrulnik est éthologue et psychiatre aussi, parmi les gens connus, là, comme ça. Et donc, l'étude des êtres vivants dans leur milieu naturel. Alors, l'équitation, évidemment, ce n'est pas le milieu naturel. Bon, ben voilà, ben disons, c'est une manière de dresser les chevaux, d'éduquer les chevaux, et qui tire ses principes de ce que la science a appris sur la manière dont les chevaux apprenaient.
Voilà. Alors, dresser, éduquer, c'est pas pareil.
Alors, c'est pas pareil. Alors, bon, on disait dresser avant parce qu'on n'avait pas d'autres termes. Maintenant, on va dire éduquer. Et puis, dans le chemin qu'on peut faire avec le cheval, on peut dire éducation, équitation, compétition, éventuellement. Voilà. Donc, c'est la communication avec le cheval. Comment on fait faire au cheval quelque chose qu'il va faire volontiers plutôt que contraint.
Voilà.
Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'il gagne à faire ça, lui, le cheval ? Quel intérêt il a à faire ce qu'on lui demande ? Ben, faut arriver à ce que justement ça devienne intéressant pour lui.
Donc ça veut dire que quand vous accompagnez des stagiaires pour leur apprendre à parler au cheval, à le comprendre, à l'écouter, vous laissez entendre à ces personnes qu'il ne faut pas le contraindre, mais il faut qu'il y ait son intérêt, que ce soit profitable pour lui ?
Il faut... Alors, évidemment qu'on a des moyens contraignants avec le cheval. D'abord, le cheval, il a peur. Voilà, si les chevaux n'avaient pas peur, ils ne seraient plus là, ils auraient été mangés. Donc, les chevaux ont peur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen ? On a de la peur, c'est vrai. La coercition, parce qu'ils sont... On arrive quand même à les contenir, pas pour faire des choses magnifiques, mais en tout cas, à les obliger un petit peu. Voilà. Mais on veut remplacer aussi vite que possible... la peur et la coercition par la compréhension, pour dire bah oui, c'est ça que je voulais, c'est formidable, et du coup que le cheval ait à gagner quelque chose. D'une part par l'arrêt de la demande, l'arrêt de la peur, et puis les félicitations, voilà. Le renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va rajouter quelque chose à ce qu'on fait, en général, enfin, ou le renforcement négatif ou positif, peu importe. Ouais. En tout cas, on va lui donner du confort, on lui dire bravo, c'était formidable ce que tu as fait, ça veut dire l'arrêt de la demande, ça veut dire la gratouille, ça veut dire une récompense alimentaire éventuellement.
On va écouter Bartabas, que vous aimez bien, et qui justement nous donne un éclairage intéressant sur cette notion de contraindre.
Souvent, les gens ont une image du cavalier à cheval assez autoritaire, assez, c'est le puissant, c'est le seigneur qui est à cheval, quoi. Alors que le peuple est à pied, dès les livres d'école, c'est les représentations qu'on en a, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné dans mon expression, quoi, à cheval. C'est-à-dire que pour moi, le cheval est un partenaire, il y a un côté... Il y a un côté même très féminin dans le fait de monter à cheval, quoi. Donc j'ai dû souvent lutter contre cette image, quoi, un peu symbolique, quoi.
Oui, bah il a raison, voilà. C'est parce que c'est la question qu'on peut se poser avec un cheval, quel est le type de relation qu'on veut avoir, voilà. Est-ce qu'on veut avoir une mobilette, est-ce qu'on veut avoir un esclave, ou est-ce qu'on veut avoir un partenaire,
voilà. Et vous alors ?
Moi c'est un partenaire, mais très très largement. Maintenant il y a des moments où on a besoin d'avoir, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de plus qu'une mobilette, ou il y a des gens qui aiment bien avoir un esclave, ça leur plaît.
Mais dans ce cas, quand vous avez quelqu'un comme stagiaire, vous refusez d'apprendre ça ?
J'enseigne pas ça, surtout je montre que c'est pas si compliqué en fait d'en faire un partenaire. Ça demande beaucoup, ça demande de la réflexion, ça demande de l'empathie, ça demande de se remettre en question, mais c'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est l'équitation de haut niveau, ça c'est un chemin de vie. Mais pour faire des choses élémentaires, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être un tortionnaire pour faire un truc très simple ? C'est vraiment horrible. On se dit, alors peut-être pour faire de la compétition de haut niveau, ça demande vraiment des efforts à tout le monde, mais pour faire les choses simples que 9 personnes sur 10 font dans l'équitation, c'est quand même dingue d'être obligé de faire des trucs cruels et difficiles pour faire des choses évidentes.
Finalement, c'est un peu comme une direction d'acteur.
C'est comme une direction d'acteur, mais c'est comme si on disait, par exemple, parce que pour être étoile de danse classique, oui, là c'est du boulot, de la souffrance, d'un travail infernal, mais pour danser le rock ou danser un slow, il n'y a quand même pas besoin de tenir les gens par les cheveux.
Mais quand même, il faut réussir à entrer en connexion.
Ah,
comment on fait pour entrer en connexion avec le cheval ? Est-ce qu'on peut penser à ça comme première étape, ou est-ce que c'est le résultat, la connexion ?
La connexion, c'est le résultat. Alors, on a une petite connexion, une grande connexion, une connexion qui va s'améliorer au fur et à mesure de notre connaissance et de l'intérêt que le cheval a à interagir avec nous. Donc, au début, on a une toute petite connexion pour des choses toutes simples. Et puis ensuite, on dit, bah, ça, c'est super. T'es extraordinaire. T'as baissé ta tête quand je te demande, mais c'est dingue. Et il leur dit le cheval, mais t'es un génie d'avoir baissé ta tête. Alors, il dit, voilà, on va mettre sur le côté. Mais c'est dingue, tu fais ça. Et puis ensuite, de plus en plus, on va se diriger vers des choses de plus en plus compliquées. Voilà.
Et comment on gagne la confiance du cheval ? Vous dites qu'il a très peur, et on sait que parfois, on ne comprend pas pourquoi un cheval a l'air nerveux. Ouais. En fait, il a vu un oiseau il y a 400 mètres, nous, on ne s'en rend pas compte. Ouais. Comment on le désensibilise, en quelque sorte ?
Alors, on essaie de lui... Le cheval, il connaît qu'une seule chose quand ça fait peur, c'est de partir en courant. Ouais. Voilà. C'est ça, la survie du cheval dans l'histoire du cheval. Et nous, on va lui dire... Parce qu'on vit plus dans... Enfin, nos chevaux ne vivent plus dans un endroit, dans des endroits aussi dangereux. Néanmoins, le temps qu'on a eu avec les chevaux, il est petit au regard de l'évolution. Donc, ils ont toujours ces réflexes de bêtes dans la nature qui peuvent se faire manger n'importe quand. Bon. Donc, nous, dans notre environnement sécurisé, on va lui dire, non, la bâche, le drapeau qui flotte là-bas, ça n'est pas une menace. Alors maintenant, on veut lui construire dans son cerveau une autre manière de réagir devant quelque chose qui pourrait lui faire peur. On va lui dire, regarde, en fait, tu as une autre solution, c'est de t'arrêter et de regarder. Et si tu t'arrêtes et tu te regardes, tu vas voir que ça ne va plus faire peur.
Ah oui.
Donc, on va le dresser, on va faire quelque chose qui lui fait un petit peu peur, on va le tenir, bon, on va le contraindre, obligé de rester, mais ça ne fait pas trop peur, c'est pas un stress post-traumatique. Et puis, au bout d'un moment, on continue à le faire, il va s'arrêter, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, il ne peut pas s'enfuir trop, il va s'arrêter, et nous, on va arrêter le truc qui fait peur. Et il va dire, ah d'accord, donc il va faire le rapport entre le fait qu'on est arrêté de faire quelque chose qui fait un peu peur, le fait qu'il se soit arrêté. Et il va comprendre que, ah d'accord, donc quand je regarde et que je m'arrête, ça s'arrête de faire peur.
Parce que le cheval est quand même très attentif.
Il a que ça à faire de ses journées. Donc,
à la différence de nous, c'est peut-être pour ça.
Ben, nous, on a les rendez-vous du lendemain, les impôts, les enfants, voilà, qu'est-ce qu'on a plein d'autres choses à faire. Et lui, il a que ça, sa survie, son calme, sa sécurité, il a que ça à observer de la journée.
Mais donc, ça veut dire que le cheval, il est très attentif aux signaux faibles.
Ah oui. Il y a un exemple absolument extraordinaire, un cheval qui s'appelait Clever Hans, qui comptait. Voilà. Alors son maître, c'est au début du siècle en Allemagne. Le cheval s'appelait Hans. Alors le cheval, le maître disait 3 fois 4. Et le cheval tapait avec son sabot jusqu'à 12.
Ah ouais ?
Un truc de dingue. N'importe quoi. Voilà. Et donc, quand ce n'était pas le maître, ça ne marchait pas. Mais le maître ne savait pas. Le maître ne savait pas, il faisait pas, il montrait pas, il montrait rien. En fait, probablement, le cheval avait observé qu'en fait, quand on s'approchait du résultat, peut-être que la respiration du maître se calmait, ou montait, ou en tout cas un signal faible. Et le cheval comptait, ça a été un truc absolument mystérieux, il a été surnommé Clever Hans.
Ouais, je crois que Vinciane Després a écrit un livre sur lui, sur ce cheval. Et elle montre que c'est une façon d'apprendre à écouter sans être influencé par un biais qui nous empêcherait de comprendre le message.
Oui, et alors ça m'a même plus que ça, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus, en se disant, mais est-ce que ça ne serait pas le cheval qui a dressé son maître à lui envoyer un signal inconscient quand il fallait donner la bonne réponse, c'est-à-dire s'arrêter de taper avec son truc. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Quand on dit « je vais arrêter ce stimulus quand tu vas faire quelque chose », ça veut dire que le cheval nous fait arrêter le stimulus quand il fait quelque chose. Donc l'interaction, elle va dans les deux sens. C'est ça qui est un peu dingue quand on y réfléchit.
Et c'est ça la connexion.
C'est ça la connexion, absolument.
Alors vous m'avez offert en arrivant, Thierry Lhermitte, un très beau livre, La sobriété équestre, de Émilie Ayot, et je lis un extrait là, je suis tombé dessus par hasard, et ça me paraît intéressant cette notion de silence. Il fut décevant, mais formateur, de prendre conscience que je ne savais pas suffisamment écouter ces silences, donc les silences du cheval. Chaque leçon fut cinglante, d'autant que ce que je prenais pour du silence était de sa part un cri.
Ouais. Au début, quand on commence à s'intéresser aux chevaux, à leur comportement, dans l'équitation éthologique en particulier, ou dans l'éthologie scientifique, on n'arrive pas à lire, on est long d'abord à interpréter les réactions du cheval, et puis quand on y réfléchit, quand on observe, ils sont souvent en souffrance d'incompréhension, comme des cancres dans une classe, ah qui ne comprennent rien et qui sont punis parce qu'ils n'ont rien compris.
Et du coup, ils font du chahut, ils bougent pas.
Voilà, les cancres regardent ailleurs, ce que font les chevaux très souvent, ou ils font les cons, ce que font les chevaux très souvent, pas trop parce qu'ils sont punis sévèrement. Et ils ont envie une vie de cancre, et c'est pénible. Et ce cri-là, ce cri silencieux, ouais, c'est le cri du cancre, on dirait le poème de Prévert.
Mais du coup, ça veut dire qu'il faut supporter le silence avec patience, parce que souvent, d'ailleurs, nous, les humains, dans le couple, ou même quand un conférencier attend les questions, on a peur du silence, on ne supporte pas le silence, alors qu'en fait, il est peut-être nécessaire.
Ben, c'est une pression, hein, le silence. Enfin, pour nous, c'est une pression. Quelqu'un qui ne répond pas à une question ou à une interaction. Mais en tout cas, c'est une interrogation qu'il faut prendre en considération. Parce que si on dit que c'est un moment neutre, non, ce n'est pas un moment neutre. Le silence, c'est voilà, une pression, une interrogation. Alors, comment on fait pour le décoder? Ça, c'est un autre problème. Mais ça interroge.
Ouais. En tout cas, c'est un vrai cadeau de Noël, Thierry Lhermitte, de vous écouter parler des chevals, d'équitation éthologique. On va écouter Jacques Higelin. Mais avant ça, je rappelle cette très belle idée que vous nous avez donnée ce matin, c'est que le cheval, lui, il est tellement attentif parce que, à la différence de nous, il n'a que ça à faire.
Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça. C'est la vie 24-9-90. Ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. J'suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'à genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau. Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin à l'étrange avant du destin. Y'a tant de folie et trop de misère, tout ce qui a été dit reste à faire. C'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers, sans prendre l'air, sans se donner le temps, leur tourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée tous les jours comme la pluie belle des roses de l'amour, comme le plus beau.
C'était Jacques Higelin, ce qui est dit doit être fait.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Alors Jacques Higelin parlait d'un cadeau de la vie, et ben ce matin, pour Noël, on a un cadeau. Et ben, c'est Thierry Lhermitte, mais Thierry Lhermitte, pas l'acteur, pas le comédien. Thierry Lhermitte, le moniteur d'équitation éthologique. Pour celles et ceux qui nous prendraient en chemin, sachez qu'à peu près un tiers de la vie de Thierry Lhermitte, depuis des décennies, c'est d'être professeur pour apprendre aux hommes et aux femmes à approcher le cheval, à comprendre le cheval, à le monter parfois, mais surtout à l'écouter.
Oui, oui, j'enseigne aux gens à enseigner aux chevaux. Voilà. Et pour ça, il faut comprendre un petit peu les chevaux.
Ouais. Alors, dans la première partie de l'émission, on a déjà compris que le cheval avait très peur de tout, qu'il fallait, parce que c'était le résultat de son évolution, qu'il fallait le désensibiliser. On a compris la référence à Conrad Lorenz, l'éthologue, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser la science pour mieux comprendre le comportement animal. On a compris aussi la belle idée d'une éducation qui n'est pas simplement un dressage. On a essayé d'entendre le silence du cheval, qui parfois est un silence de souffrance. Et vous avez fait une très belle analogie entre le cheval et le cancre. Bah, comme quand le cancre ne comprend rien, bah, il sent mal, parfois il fout le bordel. Et bah, le cheval, c'est un peu pareil. Et donc, il faut essayer de le comprendre. Mais maintenant, je voudrais qu'on passe à un autre moment de l'émission. C'est ce que ça vous a appris des hommes. Des hommes et des femmes que vous accompagnez depuis des décennies. S'il y avait comme ça une leçon, un truc que ça vous a dit des humains.
En premier, ça m'a appris de moi. Ça m'a appris de ma présomption, ça m'a appris l'humilité, voilà.
Ah oui ?
Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est très difficile. Enfin, c'est pas très difficile, mais son ignorance est tellement énorme. Vous savez, les quatre phases de l'apprentissage, inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent et inconsciemment compétent.
Ouais.
Ben la première phase, là où on découvre qu'on est incompétent, parce qu'on était inconscient avant, c'est dur, parce que c'est ça la vérité. Même des gens qui viennent à des stages et qui sont des cavaliers chevronnés s'aperçoivent que, ben, qu'ils ne faisaient pas attention, qu'ils ne savent pas demander un truc très simple à leur cheval à pied. C'est incroyable.
Ouais.
Et que donc, ben, ils tirent leur cheval comme une valise à roulettes et les chevaux, bon, ben, ils sont gentils, de toute façon, ils ne peuvent pas faire vraiment autrement. Alors que c'est tellement facile et tellement plaisant de demander au cheval de venir et de faire des trucs et que le cheval dit « Ah oui, trop facile, j'y vais, ouais ». Voilà. Donc,
de l'inviter, quoi. De l'inviter.
Ouais, de l'inviter. Donc, qu'est-ce que ça apprend ? Ben, voilà. L'humilité, ça c'est sûr. Quel que soit son niveau, on aura toujours un cheval qui vous fera douter de ce que vous savez.
Ouais.
Et qui vous remettra en question tout le temps. Et ben, cette mise en question, elle est belle. Et il faut l'apprécier. Parce que, non, c'est pas tout. Des mystères du comportement et des relations, c'est pas une découverte de savoir que les rapports entre les êtres sont compliqués. Et voilà, et s'obliger à se remettre en question tout le temps. Il y a des gens qui n'y arrivent pas.
Il y a des gens. Je vous interromps parce que, avant de passer aux autres, vous aviez besoin de ça dans votre vie, quoi.
La vie,
vous n'avez pas assez donné de leçons d'humilité.
J'en avais eu quelques-unes, oui. Mais pas avec les chevaux. Voilà.
Ouais.
Mais
je sais que vous avez eu des échecs dans votre vie
comme
producteur de cinéma, je crois.
Comme acteur, comme producteur,
Et puis aussi comme entrepreneur.
Entrepreneur, oui. Mais de toute façon, c'est la vie normale quand on dit « Oh, voilà, vous avez fait plein de succès au cinéma, mais j'ai fait 80% d'échecs. »
Ah oui ?
C'est ça la réalité,
oui.
Bien sûr. Alors on a une grosse chance dans le métier, c'est que les gens ne vont pas voir les films qui sont des échecs, donc ils ne s'en souviennent pas.
Ouais.
Mais s'ils se souvenaient de tous les échecs, ils nous jetteraient des pierres en disant « Minable, raté
!»
Donc,
mais ça ne vous a pas suffi, il fallait aller là, dans le froid, dans la campagne, le matin, pour que le cheval résiste.
Oui, parce que je découvre, moi, il y a 30 ans, je découvre ce que des gens arrivent à faire, avec le sourire, avec des chevaux qui ont l'air de sourire. Je dis, mais je veux absolument savoir faire ça, ça ne doit pas être bien compliqué. Et je commence, et je dis, mais si, c'est très compliqué. En fait, ça ne l'est pas vraiment autant, mais mon ignorance était tellement énorme que j'ai découvert que, ah non, mais je n'ai rien compris, en fait.
Et vous avez eu des maîtres ?
J'ai eu des maîtres. J'ai appris principalement avec un maître australien qui vit en France depuis très très longtemps maintenant, qui s'appelle Andy Booth. J'ai appris avec Christophe Bruyère, qui m'a fait passer mes diplômes de moniteur. J'ai appris avec Lucien Grus, qui était un grand dresseur, Francis Rebelle.
Voilà,
et je les remercie.
Alors, il y avait ce film avec Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On va écouter un extrait, et puis après, je voudrais savoir comment ça vous fait réagir.
Dis-moi, Grace. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pilgrim ? Tu sais, j'ai un problème. Quand je travaille avec un cheval, j'aime bien connaître son histoire. En général, il me raconte tout lui-même à sa façon, mais certains sont tellement perturbés qu'on a besoin d'en savoir plus.
Ah oui.
J'aimerais connaître son histoire. C'est pas facile.
Alors, il met un bémol à ça quand même. Il dit, d'habitude, le cheval me le dit, mais quelquefois, ils sont tellement perturbés que... Et donc, ce bémol est important parce qu'en fait, en gros, il ne faut pas trop écouter ce que les gens disent. Il faut écouter ce que le cheval vous dit. Moi, c'était une grosse leçon de Andy Booth pendant mon examen. Voilà, je travaillais avec un cheval et puis on me dit, comme je connaissais les gens, je voulais avoir un peu son histoire et j'anticipe. Et en fait, les gens s'étaient trompés, ils parlaient d'un autre cheval.
Ah oui.
Donc, il me dit, quand je raconte ça, il me dit, ben non, écoute ce que le cheval te dit, point final. Alors, effectivement, quelquefois, ils sont tellement perturbés que ça, peut-être ça vaut le coup. Mais très très rarement. Non, faut être en face parce que c'est ici et maintenant. Voilà. Et le cheval, il connaît que ça.
Ouais.
Avec son histoire, évidemment, qui fait que le ici et maintenant est différent. Mais en tout cas, non, il faut pas trop s'enseigner.
Il y a Bergson qui écrit « Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs ». Ça veut dire que de toute façon, l'histoire passée, elle est là, dans l'ici
oui,
et le maintenant.
Parce que ce soit les chevaux ou n'importe qui, on va avoir une interaction avec le passé de la personne. Mais avoir... réagir sur le moment avec ce que donne la personne, c'est probablement plus important que de savoir ce qui s'est avant, qui nous donne des biais, parce que nous, on peut savoir ce qui s'est passé, on peut pas savoir comment la personne a réagi, ou le cheval. Donc, on va avoir le biais de penser que, face aux événements passés, la personne ou le cheval a réagi de telle ou telle manière.
Donc finalement, ce que vous apprenez aux gens, c'est un peu à faire ce que le cheval fait, à être très attentif
ouais.
Et très dans l'écoute du présent.
Exactement. Et essayer de ne pas avoir de biais sur comment il aurait dû réagir. Non, il réagit comme ça pour une bonne raison, et c'est celle-là qu'il faut trouver.
Ouais. Dans le livre que vous m'avez offert ce matin, qui est d'ailleurs un très beau cadeau de Noël, si vous avez des cadeaux en retard, La sobriété équestre de Émilie Ayot, avec des très beaux dessins et des citations incroyables de plein de gens sur les chevaux.
Ouais.
Et je lis une de ces citations. « Intéresser quelqu'un à une conversation, c'est savoir quelle est la dose de relaxation et celle de l'influx nerveux à laquelle il faut faire appel. Si la dose de relaxation est excessive, l'interlocuteur s'endort.
Oui.
Si la dose d'influx nerveux est trop forte, il s'énerve ou se fâche. Il en est de même avec le cheval, puisque c'est justement ce dosage qui doit être à la base de toute éducation. »
Ah oui, c'est absolument vrai. Si les chevaux, on ne veut pas les ennuyer, on veut les intéresser. Quand on leur demande 50 000
comme
fois...
Les humains,
chose, comme les humains. Comme les humains, pareil. Et effectivement, il faut un peu d'expérience. C'est une autre citation qui est là-dedans, c'est « Hélas, l'expérience ne s'enseigne pas ». Donc il faut s'être trompé beaucoup.
Ben ouais. Ça me rappelle une phrase géniale de la sagesse chinoise, « L'expérience est comme un peigne pour un chauve ».
Ouais. Ah oui, absolument. Et l'expérience éclaire le chemin déjà parcouru. Pas celui qui va venir, malheureusement.
Alors revenons à Thierry Lhermitte, puisque c'est vous, le moniteur d'équitation éthologique, à ce que ce métier vous a appris des humains. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui, au fond, ne savent au fond que contraindre et ne savent pas inviter ?
Il y a beaucoup de gens qui ne savent que contraindre et qui ne savent pas inviter. Alors, ça demande d'insister, de lui dire « Non, regarde, attends, demande. »
Essaye de demander au moins. Voilà.
Être poli, voilà. Essaye d'être poli, sinon tu n'auras jamais un cheval contraint. Tu n'auras jamais un cheval qui sera content de faire ce qu'il fait. Voilà. Et puis, à l'opposé, il y a des gens qui ne savent pas s'imposer ou en tout cas de faire une demande ferme qui est aussi indispensable. Parce que les chevaux sont souvent comme des gamins, voilà. Donc, malheureusement, les chevaux et les enfants savent et voient instantanément qu'on ne va jamais faire preuve d'autorité ou de fermeté. C'est des profs qui rentrent dans la classe et il y a le bordel et ils disent « ça suffit maintenant, attention, hein, ça va mal se passer, je vais aller chercher le proviseur ». Et ça continue, jusqu'à ce que quelqu'un d'autorité arrive et dit « bon, maintenant ça suffit ».
Mais ce n'est pas facile parce que
non,
vous dites difficile. D'abord « il faut savoir demander
ouais.
et non pas contraindre », mais après « demander fermement ». Donc
oui.
C'est pas si facile.
Ben, y a un moment, après avoir dit à la classe « bon, les gars, ça va, maintenant on va s'arrêter, et maintenant le cours commence ». Voilà, il faut savoir dire le cours commence maintenant.
Ouais.
Et si on ne le fait pas, mais ça continue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire autrement. Voilà.
Alors, on imagine que vous devez vivre des choses fortes avec ces gens que vous formez. Donc, on voit ce problème, ceux qui ne savent pas inviter, ils pensent qu'à la contrainte, ceux qui ne savent pas demander fermement. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des moments où d'autres choses se passent, comme soudain, quelqu'un qui se sent lu par le cheval, comme si quelque chose se déverrouillait en lui.
Oui, quelquefois, les gens se sentent lus par le cheval à leur bénéfice et quelquefois à leur désavantage. Ah oui. C'est-à-dire, à leur bénéfice, c'est formidable, parce que tout d'un coup, on abandonne et ça marche. C'est dingue. Et le cheval fait, ah, oui. Ah merci de me parler comme ça, et ça marche. Alors ça, ça met les larmes aux yeux direct. Alors, c'est un truc de dingue, franchement. Ah, c'est dingue. Une émotion
vous voulez dire,
très forte.
Juste qu'on comprenne bien, c'est pas on arrête de mettre la pression, c'est on est un peu...
On est vrai.
Ouais.
Et voilà, je peux vous raconter une expérience qui m'est arrivée, moi. Bon. Et quelquefois, oui. on fait un truc et le cheval dit non. Je n'accepte pas ça. Et il est dans, vraiment dans l'opposition. Et là, ben, on a fait un truc que le cheval n'a pas accepté. Ouais. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Alors moi, on me demande un jour de m'occuper d'un cheval qui partait tout le temps et qu'on ne pouvait plus rattraper après. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On rend inconfortable au cheval le fait de s'en aller, c'est-à-dire qu'on le chasse quand il s'en va. Et dès qu'il s'arrête de s'en aller et qu'il nous regarde, eh ben, on arrête de le chasser et on ne bouge pas. Et on avance doucement et on recommence jusqu'à ce qu'il trouve du confort à ce qu'on soit près de lui, et de l'inconfort à s'en aller. Bon. Alors, je travaille avec ce cheval, bon, au bout de aller un quart d'heure, il est, je suis à 2 mètres de lui, et comme il m'avait arraché la longe passe près de mes pieds. Et là, il y a les gens qui m'avaient demandé de m'en occuper, qui viennent, et là, j'ai envie de montrer que je réussis et que je suis très fort. Et la longe passait à côté de mes pieds. Donc, qu'est-ce que je fais ? En sachant qu'il ne faut pas le faire, je mets le pied sur la longe qui passait à côté de mes pieds. Et quand, pendant que je le fais, je me dis, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Je lui ai promis que je n'allais pas le contraindre. Et là, je suis en train de mentir. Donc, je mets le pied et le cheval le voit et se barre. Et les gens qui étaient là s'en vont. Et tout est à recommencer. Et je me dis, là, putain, j'ai mis un quart d'heure pour arriver à 1 mètre de lui. Et là, maintenant, ça va être 2 heures, ouais. C'est sûr.
Vous avez brisé sa confiance.
Voilà, j'ai brisé, j'ai menti, voilà.
Ouais.
Et là, comme je suis tout seul, donc j'ai pas honte, je regarde le cheval et je lui dis à haute voix, bon, je suis un débile, je savais qu'il fallait pas le faire, c'est de ma faute, ça va durer un quart d'heure, ça va durer 1 heure maintenant, j'ai tout à recommencer, je suis désolé. Je me sens un peu libre, parce qu'il y a personne qui me regarde. Et là, le cheval me regarde avec un air un peu différent. Je m'approche, il ne bouge pas, je le caresse, je m'en vais et il me suit.
Donc il avait aimé que vous reconnaissiez que vous aviez menti,
ouais.
Et que vous arrêtiez de mentir.
J'avais abandonné, je savais qu'il ne fallait pas faire ça et je l'ai fait quand même, comme beaucoup de gens font dans la vie, faire un truc qu'il ne fallait pas faire. Et donc, je suis là, je suis démuni, je ne suis plus un prédateur, je ne vais plus l'attraper. Et il dit ça dans mon attitude,
dans le corps,
le ton de ma voix, dans le corps, je ne sais pas ce qu'il voit.
C'est dingue.
C'est assez dingue qu'il voit ça.
Ouais, ouais.
Mais c'est la vérité. Je m'approche, caresse, je me barre, il me suit. Voilà.
Incroyable, ouais.
Ouais, ouais. Et ça vous met les larmes aux yeux. Voilà.
Ouais. Et surtout que... on ne pourrait pas le faire de façon manipulatoire.
Non.
Ça ne peut que se faire dans la vérité.
Ça se voit et... Alors, les chevaux le voient. Alors, est-ce qu'ils ont un truc? Mais quelque part, on le voit nous aussi, si on est attentif. On voit bien que quelqu'un est en train de nous baratiner. Alors malheureusement, on a la rationalité qui nous fait croire aux raisons rationnelles qu'ils disent, mais le petit malaise qui vous fait dire « Ah, je le sens pas, il y a un truc là
ouais. ».
Voilà. Si on est attentif à ça, le cheval, il n'y a que ça à être attentif, on se barrerait ouais. en courant. On dirait « Non, non, mais là, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Viens là, viens ma petite, viens, on va aller dans le cabinet qui est derrière, viens. Alors elle a beau dire « Non, je ne vais rien te faire », mais le malaise, il est bien là. Donc, la rationalité, les mots vous obligent à y aller, mais la petite voix qui dit non, c'est glauque, elle existe quand même.
On entend bien cette vérité de l'abandon. On va écouter Taylor Swift pour faire résonner cette manière dont parfois, c'est quand on arrête de mettre la pression que les choses s'arrangent. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Thierry Lhermitte, sous le soleil de Platon, et nous parlons d'équitation, d'équitation éthologique, de ce que les chevaux nous apprennent d'eux-mêmes, de ce que les chevaux nous apprennent des humains. Alors avant d'écouter Taylor Swift, vous avez joliment parlé de ce moment d'abandon, presque de renoncement à dominer le cheval, que souvent le cheval ressent et qui peut parfois relance la connexion. Et je vous ai apporté un petit cadeau, puisque vous m'avez amené un cadeau, je répète, La sobriété équestre d'Émilie Ayot, un très beau livre avec des dessins sur les chevaux, et puis avec toutes les citations de plein de gens sur le rapport au cheval. Et moi, je vous offre le premier roman de Bartabas, qui a beaucoup écrit déjà, mais c'est son premier roman, Les Cognes Trottoirs, qui sort le 8 janvier. Je crois que vous l'aimez bien.
Eh ben, merci beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Bartabas.
Et maintenant, je voudrais qu'on revienne sur ce que disait Gilles Deleuze, qui est que pour comprendre un cheval, il faut peut-être se débarrasser de sa rationalité et écouter tout à fait autre chose. On écoute Gilles Deleuze.
Vous allez définir un animal, ou bien un homme. Pas du tout par sa forme, pas du tout par ses organes et ses fonctions, et pas non plus comme un sujet. Vous allez le définir par les affects dont il est capable.
Par les affects dont il est capable. Mmh. Donc affects, si on imagine, c'est quoi, la joie, la tristesse, la colère ?
La joie, oui. La tristesse, oui.
Ouais.
La colère, oui. La peur, oui.
Ouais.
Tous ces affects-là, oui, ils sont dans la vie du cheval. Oui, sans aucune difficulté.
Et c'est lequel domine ? C'est la peur, non ?
La peur, la recherche de la sécurité, ça c'est en premier. Et puis, recherche de nourriture, les congénères. Mais la sécurité en grand numéro un.
Oui, c'est ça. Ouais. Et on a l'impression qu'il y a toute une évolution de l'espèce qui a créé cette peur. Et que votre travail à vous, c'est de réussir à casser ça, au fond,
À lui faire comprendre que l'environnement de l'homme est sécurisant, que la présence de l'homme est un élément positif, c'est du boulot, parce qu'a priori, pourquoi est-ce qu'il viendrait le cheval qui est dans son pré et qui vient quand on l'appelle, c'est quand même un bon signe, qu'on ne soit pas obligé d'aller le choper au lasso pour venir. Ça veut dire que notre fréquentation n'est pas trop désagréable, et c'est déjà pas mal. Voilà. Le fait que le cheval, quand on met un mort, en tout cas, qui accepte le mort et qui même le demande...
Mort, c'est ce qu'on met dans les dents.
Oui, c'est le morceau de métal qu'on met dans la bouche, ou pas d'ailleurs, mais enfin, quand on le met, le cheval qui prend le mort, ça veut quand même dire qu'il n'a pas une hostilité à cette idée. C'est un petit peu comme ça, et si on n'est pas attentif aux réactions du cheval, on perd une partie de la... Bon, on peut s'en foutre, il y a des gens qui c'est indifférent. Hein.
Mais vous essayez de leur apprendre.
Et puis les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont envie d'apprendre ça et d'être attentif à ça. Ouais.
Autre citation dans le très beau livre que vous m'avez offert, « J'essaye d'écouter le cheval, de découvrir ce qu'il tente de nous dire. Je tâche de ressentir ce qu'il ressent, et c'est la chute qui est importante, et d'agir depuis l'endroit où il se trouve. »
Eh oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Je sais pas. On demande quelque chose. Le cheval, quand on lui fait une nouvelle demande, il n'a pas la moindre idée de ce que... Peut-être si c'est l'enchaînement logique de quelque chose qu'on a fait avant, mais a priori, il n'a pas la moindre idée. Donc, il va essayer, sinon il ne va rien faire. Mais s'il est coopératif, parce qu'il a une bonne relation avec nous, il va dire, je ne sais pas, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, comme... Bon, et puis, nous, il va falloir être attentif aux propositions qu'il fait. Et même déjà être attentif au fait qu'il nous propose. Déjà au fait qu'il essaye, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà une relation formidable d'avoir un partenaire qui vous dit « Ah ouais, je sais pas, tu veux ça ? J'en sais rien. » C'est déjà pas mal.
Bah ouais. Donc, surtout que c'est une altérité étonnante. C'est quand, même, c'est quand même l'autre.
C'est l'autre. Ouais. Et d'être avec quelqu'un qui collabore à ça, même sans savoir ce qu'on demande, c'est déjà pas mal.
Ouais, bien sûr.
Donc, en tant que professeur, déjà, c'est quand même sympa d'avoir des élèves, même s'ils répondent n'importe quoi, qui disent « Ouais, c'est peut-être ça. » C'est déjà un enthousiasme plus formidable par rapport à une apathie ou un désintérêt. Donc être attentif à ça, c'est déjà pas mal. Et plutôt que dire « Non, c'est pas ça !» C'est dire « Ouais, t'as cherché ! Ouais, c'est super, t'as cherché ! Ben non, vas-y, continue ! Ouais, c'est ça, c'est ouais. super !» Ben voilà, cette interaction-là, ça nourrit la relation. Voilà. Et ben, je pense que un prof qui ferait ça avec ses élèves, ça serait... C'est super, parce qu'il y en a qui le font. Voilà.
Ouais, et ceux-là, ce n'est pas ceux qui pensent que les élèves sont des bourrins.
Oui, absolument.
Autre citation très belle, car l'équitation, parce qu'elle éduque ensemble homme et cheval, est susceptible de donner à l'écuyer les moyens non seulement de construire son identité, mais aussi d'entreprendre une métamorphose de lui-même.
Oui. Bah, c'est sûr. Bah, l'humilité, la persévérance, l'attention à l'autre, on peut dire que ce sont des qualités humaines qui ouais, sortent ouais. du domaine du cheval. Ouais.
Bah, bien sûr. Ouais. Alors vous avez dit que ce que ça vous avait appris, vous, c'était l'humilité. Ouais. Et si on cherche autre chose, j'imagine les auditeurs qui disent, voilà, ils imaginent votre vie, vous avez une vie bien remplie, vous êtes aussi très engagé dans la recherche médicale. On vous entend souvent sur France Inter, dans l'émission d'Ali Rebéi, parler de cette collaboration ouais. avec la recherche médicale. Et du coup, on se doute bien que c'est pas rien, quoi, pour vous, de prendre votre train, d'aller au fond du Cantal ou de la Normandie pour faire le moniteur pendant une journée, deux jours. Qu'est-ce que vous cherchez ?
Eh ben, moi, j'aime... J'ai le sentiment de faire du bien aux chevaux et de faire du bien aux gens. Ben moi, ça me nourrit.
Ouais.
Je, honnêtement, c'est valorisant. Je suis content d'avoir fait quelque chose de bien. Voilà.
Ouais.
D'avoir apporté ma toute petite pierre aux relations des gens avec leurs chevaux. Voilà. Ça me suffit.
Quand je vous écoute comme ça, si sensible au fond et si tendre, bah, soudain je pense à Nietzsche, 1888, ouais. vous savez sûrement, à Turin. Il n'est pas encore fou, Nietzsche, contrairement à ce qu'on croit. On réinterprète souvent a posteriori son œuvre tout entière à la lumière de sa explosion finale de folie. C'est une erreur. Il a contracté la syphilis et ça le rend fou, mais c'est à la fin. Et dans ce moment de basculement, il voit un cheval dans la rue
ouais.
se faire fouetter par un cocher et ça lui déchire le cœur. Il tombe par terre
ouais.
et il ne se relèvera jamais.
Ah, c'est beau ça. Ben c'est une empathie, quoi. C'est vraiment ouais. sentir la souffrance de l'autre. Et ça me fait penser à un livre d'un rescapé de camp qui était à Vienne après avoir été libéré d'Auschwitz, je crois,
ouais.
Pour reprendre du poids, machin. Et l'infirmière l'emmène se promener quand il peut marcher. Et là, il voit un soldat américain qui surveillait des détenus allemands, puisque c'était après la défaite de l'Allemagne, et le soldat américain percute que cet homme revient des camps. Et il sort sa ceinture, et il frappe un détenu allemand. Et il fond en larmes, et il s'en va. Voilà.
Ouais.
Il voir frapper un bourreau, il ne supporte pas, parce qu'une ouais. injustice n'en remplace pas une autre.
Mais d'ailleurs, ça me rappelle Fleur de Soleil, qui est ce sublime seul en scène que vous avez joué longtemps, mis en scène par Steve Suissa, où c'est quelque part l'histoire d'un jeune nazi qui a commis l'irréparable. Il a mis le feu à un immeuble dans lequel il y avait beaucoup de juifs, et il est malade, il va mourir, il est jeune, il s'en veut à mort. Et il voudrait demander pardon à un juif au nom de tous les autres juifs. Il en fait venir un, et ce juif refuse de pardonner, mais fait preuve d'empathie, malgré tout.
Ben, il se demande, et parmi les lettres qu'a envoyé Simon Wiesenthal pour savoir qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, les lettres ouais. qu'il a envoyées d'état d'autorité morale, il y a la dernière qu'on lisait, c'était qu'il disait, mais monsieur Wiesenthal, moi en fait j'aurais fait comme vous, je n'aurais pas pardonné, et je me serais demandé tout au long de ma vie si j'ai bien fait de ne pas pardonner, et j'aurais regretté de ne pas avoir pardonné. Ouais, c'est la vie.
Ouais, parce qu'en fait, malgré tout, comme il y a des mouches, une mouche qui se pose sur la lèvre ouais. de ce jeune nazi qui est en train de mourir, il est quand ouais. même en train d'agoniser, il enlève la mouche,
ouais.
il a quand même de la pitié, et puis il lui prend la main.
Ouais.
Au moment même où il ne veut pas, il refuse le pardon,
ouais.
il lui prend quand même la main.
Ouais. Au fond de lui, il y a quelque chose qui voilà, il y a une empathie pour le bourreau, mais il ne peut pas pardonner, les conditions ne sont pas réunies. Bon, déjà, il demande le pardon, c'est déjà pas mal. Il reconnaît sa faute, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais bon, moi, après avoir lu toutes ses lettres, avoir joué beaucoup, je dis, ouais, après la justice, après la demande de pardon, peut-être.
Ouais.
Enfin, moi, c'est la philosophie de comptoir que je me suis faite.
Pas du tout, figurez-vous, Thierry Lhermitte, c'est pas du tout une philosophie de comptoir, c'est la thèse de Derrida, qui fait une lecture hegelienne du pardon en disant, écoutez, il faut d'abord que le droit, que ça a été condamné, jugé, qu'il y ait une punition, une peine, déjà c'est la base.
Ouais.
Ensuite, il faut en plus que le mec condamné, il demande pardon en montrant qu'il a compris le mal qu'il a fait, et pas un pardon automatique. Et à ce moment-là, peut-être, on pourrait envisager de pardonner, mais ce ne serait qu'un parachèvement de ce qui a été valable dans le droit et dans la justice.
C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé après avoir lu toutes ces lettres.
Voilà. C'est pas du tout une philosophie de comptoir. Et vous savez, on s'est pas éloigné de notre sujet, de l'empathie par rapport à l'animal. On pourrait se dire que si. Et en fait, je crois pas, parce que c'est Nietzsche, justement, qui dit « Qui aime le plus vivant pense le plus profond. » Et il reprend une idée qui est que il faut s'entraîner... Enfin, si déjà on a de l'empathie par rapport à une fourmi, quoi, ou par rapport à un cheval, c'est plutôt un bon point de départ pour en avoir pour les humains. Déjà, ça pourrait vous inquiéter si vous avez été un enfant qui aimait arracher les ailes des mouches. Hein. Mais on s'en doute que c'est pas votre cas. Mais il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça, et qui après, peut-être, y repensent avec un peu de honte. Et Kant dit que c'est un très mauvais début dans l'aventure morale, que quand on prend soin du plus fragile, eh ben, c'est un très bon début qui nous lance dans l'aventure de la moralité. Et je vais vous faire un autre cadeau, et c'est aussi un cadeau pour tous les auditeurs, toutes les auditrices. Il y a un livre dingue à ce sujet qui s'appelle « Le silence des bêtes ». C'est Elisabeth de Fontenay. Et d'ailleurs, la couverture, c'est un cheval peint par Chagall.
Ouais.
Sublime, une scène. Et c'est un livre incroyable où elle relie toute l'histoire de l'humanité et de la philosophie à la lumière de ce que le rapport à l'animal nous dit de notre humanité. Et c'est là qu'elle dit qu'il faudrait déjà commencer par... que c'est pas contradictoire, quoi. Au contraire, que bien traiter les animaux, être à l'écoute de leur... ils sont si loin, si proches. C'est ce que vous racontez. C'est une altérité. Quand vous dites, voilà, le cheval, il voit que j'ai lâché l'affaire, du coup, il se détend et il me suit.
Oui, absolument. Alors, on se méfie beaucoup de l'anthropomorphisme, parce que vraiment, le fait d'imaginer que le cheval a des pensées proches des nôtres, c'est absurde, il n'y a pas de cortex préfrontal, ça ne marche pas. Mais tout le reste du cerveau, mais on l'a en commun. Donc les émotions, les sièges de l'émotion, de la mémoire, la structure du cerveau général en dehors du contexte préfrontal, c'est quand même très proche, on va dire. Donc on a beaucoup en commun, et puis des différences, oui.
Est-ce que vous connaissez le sculpteur et dessinateur Frédéric Jaeger ?
Non, je ne le connais pas.
Il est incroyable, il sculpte beaucoup de chevaux, des purs sangs arabes. On voit par exemple à Chantilly, à la Fontaine aux Trois Chevaux.
Ah oui,
ouais, c'est lui.
D'accord, ok.
Et il est incroyable, et j'avais jamais vu comme ça l'énergie d'un cheval dans la sculpture et dans le dessin. Et je pense que ça peut vous intéresser. Donc, autre cadeau après le premier roman de Bartabas, une sculpture de Frédéric Jaeger.
Ah oui, merci.
Et puis, dernière question peut-être, la compétition. Donc, on pourrait se dire que c'est ça l'horizon.
C'est une possibilité, oui. Parce qu'il y a des gens qui aiment la compétition, pourquoi pas, si ça amène pas de la maltraitance des animaux, des chevaux, pourquoi pas.
Mais c'est pas votre truc.
Moi, c'est pas mon truc, c'est comme ça. Moi, je n'aime pas du tout perdre et je n'ai aucun plaisir à gagner.
Ah, donc c'est pas trop votre truc.
Ouais. J'ai honte d'avoir gagné. Donc, franchement, ça ne me fait pas plaisir, et je ne dis pas ça avec, je sais pas comment dire, avec forfanterie rien du tout. J'ai honte d'avoir gagné, et je n'aime pas perdre. Donc, j'ai bien compris un jour que ça n'était pas pour moi.
C'est sûr que si vous n'aimez ni perdre ni gagner, la compétition n'est pas votre truc.
Mais j'aime regarder les compétitions, peu importe.
Même les courses de chevaux.
Les courses de chevaux, oui, c'est marrant, mais toutes les compétitions. Je regarde le rugby, le top 14, le tournoi des 5 nations. Ouais. Enfin bon, voilà.
Bah écoutez, on vous a bien rencontré, Thierry Lhermitte, on comprend, voilà, c'est quelqu'un qui n'aime ni gagner ni perdre, et peut-être que c'est quelqu'un qui aime la vraie vie. C'était vraiment un plaisir de faire ce voyage avec vous au milieu de votre autre métier, professeur d'équitation éthologique. Je vais essayer pour vous remercier de nous avoir accompagnés en ce matin de Noël, sous le soleil de Platon, de dégager la philosophie de la vie qu'on a entendue. Alors, peut-être... Elle est clos dans la rencontre de Barthabas et de Kant, puisque Kant distingue le dressage de l'éducation. Et c'est un peu ce que vous avez fait. L'idée, c'est pas de dresser et de contraindre, c'est de donner envie à l'autre d'aller là où on veut l'emmener, que ce soit pour lui profitable, que ce soit son intérêt, et aussi que ça lui donne du plaisir. On a entendu aussi une très belle idée, l'idée de savoir demander, mais fermement, de savoir inviter, mais avec autorité. Et on a compris qu'à travers votre parcours, vous aviez rencontré des hommes qui ne savent pas inviter, des femmes aussi, peut-être, qui ne veulent que contraindre, et puis aussi des hommes ou des femmes qui ne savent pas dire les choses fermement. Enfin, une philosophie de l'humilité. Alors c'est un peu gênant de... Bon, heureusement, c'est pas vous qui le dites, mais c'est toujours un peu gênant quelqu'un qui dit « moi, je suis humble, évidemment », mais là, c'est moi qui vous le dis, et ça fait plaisir d'entendre voilà, cette philosophie-là de l'humilité. Et d'ailleurs, dans l'humilité, il y a humus et il y a cette terre que foulent les sabots du cheval. Merci beaucoup, Thierry Lhermitte.
Merci, Charles Pépin.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap et Louise Tempero, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique l'excellent Raphaël Rousseau. Merci beaucoup et joyeux Noël.